C'est à vous, Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. 338 morts en une semaine à Alep, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Un bain de sang pour Médecins Sans Frontières. Des bombardements barbares, estiment Angela Merkel et Barack Obama. L'avancée du régime syrien dans le nord et le centre d'Alep se confirme et ne se fait pas sans dégâts. La situation à Alep est tragique et la France est à l'initiative pour tenter de trouver une solution diplomatique. Un projet dont il a été question hier soir à l'ONU et qui sera présenté au Conseil de sécurité dès lundi. Il s'agirait notamment de rétablir un cessez-le-feu conformément à l'accord américano-russe du mois dernier afin de permettre un accès humanitaire sans entrave à la population assiégée. Parmi les nombreuses voix dans le concert des protestations liées à la situation à Alep, celle du pape François qui est dans le Caucase ce week-end en Géorgie depuis hier, il a lancé un nouvel appel à la paix. Mathilde Imberti.
À défaut de pouvoir se rendre sur les territoires en guerre et auprès des chrétiens persécutés, c'est dans une petite église de la capitale géorgienne que le pape François a prié pour la paix au Proche-Orient, pour les victimes innocentes, pour, dit-il, les peuples épuisés par les bombes. Un lieu de culte choisi avec soin, cette église est le refuge de la communauté chaldéenne à Tbilissi. L'église chaldéenne est implantée au Caucase, certes, mais surtout en Syrie et en Irak. Des pèlerins ont d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion, parmi eux le patriarche des Chaldéens venu spécialement d'Irak. De la Géorgie, pays modeste sur la scène diplomatique, le pape François interpelle en réalité les grandes puissances, à commencer par la Russie voisine. Mercredi déjà, en audience publique au Vatican, il avertissait « ceux qui bombardent Alep devront répondre devant Dieu ». Selon lui, la solution militaire ne peut être qu'une impasse.
Mathilde Imberti. L'inhumation de Shimon Peres hier à Jérusalem, l'ancien premier ministre israélien a été mis en terre au cours d'une cérémonie qui a donné l'occasion d'une poignée de main entre l'actuel premier ministre Benjamin Netanyahou et le leader palestinien Mahmoud Abbas. Impossible pour autant d'y voir le signe d'un espoir de paix, même ténu. Quelques heures à peine après la cérémonie, un palestinien a agressé un garde israélien à un poste de contrôle en Cisjordanie, le blessant grièvement avant d'être abattu. Dans le Cachemire, territoire contesté, la tension continue à monter entre l'Inde et le Pakistan, puissance nucléaire. Après des opérations militaires indiennes dans la région, plusieurs milliers d'habitants de villages frontaliers ont été évacués par crainte de représailles pakistanaises. Et cette nuit encore, de part et d'autre de la ligne de démarcation, les deux pays ont échangé des tirs sans visiblement causer de pertes humaines. Pour tenter de faire baisser une tension très vive sur place, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a proposé hier le principe d'une médiation. C'est aujourd'hui, 1er octobre, que le français Michel Barnier prend officiellement ses fonctions de négociateur en chef des conditions de réalisation du Brexit. L'ancien ministre des Affaires étrangères français sera chargé de négocier les termes de la séparation de l'UE et du Royaume-Uni, une fois que les Britanniques auront enclenché l'article 50 du traité de Lisbonne. Pas question pour les Européens de se laisser distancer par la Chine ou les États-Unis. Hier, les ministres de l'Environnement de l'Union, réunis à Bruxelles pour un conseil extraordinaire, ont décidé d'accélérer et de ratifier collectivement et plus rapidement que prévu l'accord de Paris sur le climat. Une décision qui reste à valider en début de semaine prochaine devant le Parlement européen à Strasbourg. Les explications à Bruxelles de Johanna Hochstein.
Surtout ne pas apparaître à la traîne sur le front climatique, c'est pour cela que la présidente de la COP21, Ségolène Royal, a souhaité accélérer la ratification de l'accord de Paris par l'Union européenne, une nécessité devenue d'autant plus grande depuis que la Chine et les États-Unis, principaux pollueurs de la planète, ont ratifié l'accord et que l'Inde a pris le même engagement. Les ministres européens ont donc imaginé une procédure inédite pour ratifier l'accord de Paris au nom de l'Union européenne, sans attendre que chacun des 28 ne soit allé au bout de son processus national. Pour que la ratification soit définitive, le Parlement européen devra encore donner son feu vert la semaine prochaine à Strasbourg. Cette étape pourrait permettre de franchir le seuil des 55% d'émissions de gaz à effet de serre, un préalable nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Le calendrier serait alors respecté, puisque l'accord sur le climat serait ratifié par le nombre de parties suffisant avant l'ouverture des négociations sur les modalités d'application de l'accord de Paris, qui auront lieu à Marrakech début novembre.
Les socialistes espagnols en pleine crise se préparent à une réunion décisive du Parlement de leur parti aujourd'hui à Madrid où ils pourraient décider de lever leur veto à un nouveau gouvernement Rajoy. Si cette décision était prise, elle permettrait de mettre fin à 9 mois de paralysie politique en Espagne. Et à l'occasion de ce Parlement, le PSOE aura aussi à régler une guerre ouverte qui s'est déclarée récemment entre les partisans et les détracteurs du secrétaire général du parti, Pedro Sanchez. À Londres, le célèbre Tower Bridge, un des plus grands ponts à bascule du monde, sera fermé à la circulation à partir d'aujourd'hui. Ce monument important au cœur des Londoniens et primordial pour la circulation dans la ville doit subir 3 mois de réparations intensives. Il s'agit de préserver sa structure qui date de la fin du 19e siècle. À Londres, les explications de Marina Daras.
Sur le Tower Bridge, il est d'habitude difficile de faire abstraction du bruit des voitures. Plus de 21 000 véhicules empruntent le pont chaque jour, mais du haut de ses 122 ans, le pont commence à montrer des signes de fatigue. D'après Ian Schofield, chargé des transports à la mairie de Londres, les réparations qui vont avoir lieu ces 3 prochains mois sont devenues vitales pour le pont et vont permettre, entre autres, d'imperméabiliser les arches qui n'ont pas été rénovées depuis sa construction.
Il faut remplacer le platelage sur les 2 pans basculants du pont et aussi les joints d'expansion qui permettent au pont de s'étendre et de se contracter pour s'adapter au vent. Le Tower Bridge est un pont célèbre, mais c'est surtout un pont très utilisé par les automobilistes, ceux qui l'abîment au quotidien.
Des déviations ont été mises en place, les chauffeurs de taxi craignent que la fermeture du pont ne cause encore plus de congestion sur une route déjà très chargée.
Pour les locaux, ça va être vraiment chaotique. Il n'y a pas d'autre mot pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ça va être vraiment compliqué.
On voulait prendre le bus pour passer au-dessus du pont, mais ils sont déjà en déviation. C'est vraiment dommage. On voulait le traverser en bus, mais il faudra le faire à pied.
Pour les touristes, pas de panique, même si la traversée en bus n'est plus en option. Les piétons auront toujours accès aux passerelles supérieures du pont. Les visiteurs pourront donc profiter de la vue magnifique qu'offre le plancher de verre et qui permet d'admirer la Tamise à 42 mètres de hauteur.
Reportage de Marina Daras. Un temps très couvert ce samedi en France d'après Météo France, avec de la pluie accompagnée d'orages de l'Aquitaine au nord-est et une alerte orange pour les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Vigilance aux orages et aux pluies pour la journée. Température maximale comprise cet après-midi entre 16 et 21 degrés jusqu'à 26 degrés localement aux abords de la Méditerranée.